Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne. Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, émission spéciale porcelaine.
Oui.
Voilà, on va voyager à travers les mystères de sa fabrication.
D'accord.
Et vous faire découvrir pourquoi elle valait plus cher que l'or à une époque.
D'accord.
Oui, puis avec toi en deuxième partie, Didier, nous allons commémorer les 140 ans de relations diplomatiques entre le peuple de France et celui de la Corée du Sud. Une amitié sans faille, et c'est plutôt rare.
Et c'est bien agréable.
Et c'est plutôt chouette.
Oui, c'est plutôt chouette, oui, voilà. C'est vrai, surtout en ce moment. Alors, allons-y. Donc, avant de partir en Corée, Corinne, tu peux commencer par expliquer les différences entre céramique, faïence et porcelaine. Alors, on a parfois du mal à le savoir précisément, en fait.
Oui, c'est vrai ça. On confond souvent la faïence et la porcelaine.
C'est bien possible.
Mais elles ont des différences importantes de composition, de fabrication et d'aspect. Et de fabrication, bien évidemment, je l'ai dit, mais je le répète. Et pour commencer, je vais mettre tout le monde d'accord. La céramique est un terme générique qui désigne tous les objets fabriqués à partir d'argile ou de terre cuite.
Okay. Donc,
comme ça, tout le monde est d'accord. Mmh. Elle peut contenir différentes argiles et des minéraux. Donc,
d'accord.
Pas forcément les mêmes. Okay. Et donc, la faïence, on va commencer par là, est une céramique, comme la porcelaine.
D'accord.
Et elle est fabriquée à partir d'argile, je dirais un peu n'importe quelle argile,
d'accord,
cuite à une température relativement modérée, entre 900 et 1200 degrés.
D'accord, c'est modéré pour ce qu'on parle. D'accord.
Voilà. Puis ensuite, elle est recouverte d'un émail opaque, souvent blanc, à base d'oxyde d'étain.
D'accord.
Alors cet émail permet d'obtenir une surface lisse et brillante, idéale pour le carrelage et les objets décoratifs, mais n'est pas idéale pour la vaisselle car elle reste légèrement poreuse sous l'émail.
D'accord.
Et puis finalement assez fragile.
Ah.
Alors la technique de la faïence est apparue au 8e siècle au Moyen-Orient, donc assez tard je trouve moi, avant de se développer en Europe à la Renaissance.
Oui.
Mais aujourd'hui je vais donc consacrer cette chronique à la porcelaine qu'on appelait l'or blanc, Didier.
D'accord. Alors, qu'a donc de particulier la porcelaine, Corinne ?
Bah, c'est un type particulier de céramique, Didier.
D'accord.
Elle est fabriquée à partir du kaolin, donc une argile très pure.
Alors, kaolin, ça me parle. Ça,
voilà, c'est une argile très très pure qu'on mélange à du feldspath, qui est un minéral assez ordinaire, et du quartz, qui lui donne sa finesse et sa résistance. Mmh. Elle est cuite à très haute température, entre 1300 et 1400 degrés, ce qui la rend très dure et translucide lorsqu'on la place devant la lumière.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et contrairement aux idées reçues, malgré son apparence fragile, la porcelaine est plus résistante que la céramique ordinaire.
D'accord.
Et elle résiste mieux au choc et à l'usure.
Ah, j'aurais pas cru.
Okay. Et oui, et c'est certain. Et la porcelaine est utilisée donc pour la vaisselle fine, les objets décoratifs et pour certains usages techniques en électricité et pour du matériel médical aussi.
Alors, cette porcelaine a une histoire. Quelle est son histoire ? D'où vient-elle, s'il te plaît ?
Alors, elle remonte en Chine il y a 2000 ans, Didier.
Oui.
Et c'est l'une des inventions majeures de la civilisation chinoise.
Mais...
Alors, les artisans chinois avaient découvert déjà à cette époque qu'en mélangeant du kaolin, donc l'argile pure, avec du feldspath, avec une température de cuisson extrêmement élevée, ils pouvaient produire déjà une céramique blanche translucide, très dure et sonore comme du verre.
Ah ouais.
Alors, ce sera entre le 7e et le 14e siècle, voilà, que les artisans vont perfectionner les techniques de cuisson à très haute température. Mm-hmm. Mais c'est sous les Ming, du 14e au 17e siècle, que la porcelaine va atteindre un sommet artistique et technique.
Mm-hmm.
Alors, les célèbres porcelaines bleues et blanches, décorées au cobalt et produites massivement, deviendront des objets d'exportation très recherchés.
Oui,
alors, pour info, aujourd'hui, un vase Ming, en fonction de sa taille, j'ai cherché le prix quand même,
d'accord,
et de sa rareté,
fais-moi
vaut de 50 000 euros à plusieurs millions d'euros.
Oui, bah, je mettrai autre chose
pour les plus belles pièces.
D'accord.
Et en plus de sa beauté, la porcelaine a toujours une signification culturelle majeure. Mmh. Elle représente l'harmonie entre nature et technique. Hein, on pourrait même dire entre l'homme et la nature, puisque ça vient de la nature et fabriqué par l'homme. Ça représente la pureté, la perfection esthétique et le prestige impérial.
D'accord. Alors, du coup, Corinne, c'est donc à partir des Ming du 15e siècle que l'Europe va avoir accès à la porcelaine chinoise. Mais à partir de quand les Français vont aussi fabriquer de la porcelaine? Parce que ça a été un défi, je crois. Hein.
Oui, ils vont, oui, tout à fait. Ils vont fabriquer à partir c'est à partir du 15e siècle, oui, que l'Europe va avoir accès à la porcelaine et, mmh, ça va devenir un produit de luxe mondial, mmh, avec la route de la soie et le commerce maritime. Mmh. Alors, elle va d'abord fasciner le monde islamique. Bah, elle passait d'abord par là.
Bien sûr, c'est la
puis
route.
L'Europe, où elle va être là, surnommée l'or blanc.
Oui.
Et ce sont les marchands de la compagnie néerlandaise des Indes orientales,
oui,
qui vont l'importer massivement.
Forcément, c'était pas
au XVIIe,
oui,
siècle.
D'accord.
Et ça va susciter un engouement sans précédent auprès des cours européennes qui vont se mettre à collectionner ces objets rares et exposer dans les cabinets de curiosité,
oui,
avant d'être utilisés plus tard comme, mmh, vaisselle.
Mmh.
Alors pendant des siècles, eh ben, les Européens tenteront sans succès d'en reproduire la fabrication.
Oui, c'est pas si simple.
C'est ça. Il y avait des secrets, surtout le secret de la cuisson.
Bien sûr.
Et pendant des siècles, ben, les Européens vont tenter sans succès de les reproduire.
Mmh.
Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'Europe va réussir à produire de la véritable porcelaine.
Okay.
D'abord en 1708 à Meissen en Saxe, hein, la porcelaine,
d'accord,
de Saxe,
en Allemagne.
Puis vers 1770 à Limoges,
oui,
à Gien et à Sèvres.
Oui, forcément.
Voilà, où la production sera soutenue par la monarchie pour contribuer au rayonnement artistique français.
Bien sûr.
Donc c'est une grande... Il a fallu attendre longtemps pour avoir accès à la porcelaine.
Clairement. Alors, maintenant,
oui,
on fait une petite pause.
Ah oui, c'est vrai. C'est le moment de notre pause musicale,
c'est
Didier.
Ça.
Bah, c'est forcément une pause musicale chinoise, cette fois.
Voilà. Toujours avec Asialogie sur Radio Alpa 107.3, nous allons reprendre la route de la porcelaine avec Corinne qui nous conte cette histoire de l'or blanc. Alors, dis-moi, pourquoi au XVIIe siècle un tel engouement des Européens pour la porcelaine? Pourquoi cet engouement?
Oui, pourquoi cet engouement?
Eh oui.
On trouvait ça très beau, bien sûr. Alors,
oui,
on a tenté de l'imiter,
c'est
avec
ça,
de la faïence ou du verre. On a fait des mélanges, mais
on
n'y arrivait pas.
On a sur les trucs qu'on n'arrive pas à faire. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et ce qu'on fabriquait, comparé avec la porcelaine chinoise, c'était pas terrible. C'est pour ça qu'on considérait la porcelaine chinoise presque magique,
aha,
d'autant qu'elle était rare.
Voilà.
Vu que son importation était difficile et très coûteuse avant,
d'accord,
les grandes routes commerciales modernes. Donc c'était sa rareté, en fait.
Oui, c'est
la difficulté pour s'en procurer qui,
exactement,
lui donnait aussi sa valeur. Bah, les objets devaient être protégés contre la casse, hein, parce qu'elles parcouraient quand même des milliers de kilomètres.
Clair.
par la route de la soie ou par la mer. Elles étaient manipulées, il fallait résister à des tempêtes, des naufrages, sûrement des attaques de pirates.
Ça a beau être plus costaud, on sait quand même que c'est fragile, donc c'est pas si simple.
Et puis il y avait aussi de nombreux intermédiaires qui, bien évidemment, faisaient enchérir le coût.
Oh, ça j'imagine. Ouais.
Alors chaque pièce arrivée en Europe était donc rare et ça augmentait énormément sa valeur.
Bien sûr.
Et posséder de la porcelaine chinoise était signe de, richesse et de pouvoir.
Forcément, comme d'habitude.
Voilà, elle est utilisée par les rois et les aristocrates pour afficher leur statut, décorer leur palais et montrer leur prestige au travers de, l'accès qu'ils avaient aux réseaux commerciaux mondiaux. N'importe qui ne pouvait pas avoir de la porcelaine chinoise. Alors par exemple, Louis XIV collectionnait les porcelaines chinoises pour le château de Versailles.
Ah bien.
Il y avait aussi à l'époque une fascination culturelle pour la civilisation chinoise qu'on appelait chinoiserie.
Oui, c'est vrai, aussi. Bon, ça a participé.
Tout à fait. Tout cela a conduit à une spéculation économique importante sur la porcelaine chinoise.
D'accord.
Dont les prix augmenteront fortement pendant longtemps.
Ouais.
Et elles pouvaient être échangées contre de grandes quantités de métaux précieux, dont de l'or.
Ah, tout de même.
Ah oui, 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 vraiment. Et pendant plusieurs siècles, avant que l'Europe en produise, la porcelaine avait été l'un des objets les plus précieux du monde.
Mmh.
Et ce sera seulement donc à partir du 19e siècle que l'industrialisation va la démocratiser, la rendre accessible. Donc aujourd'hui, je dirais que la porcelaine reste un symbole d'élégance
tout
et de savoir-faire
ouais,
en perpétuant une tradition qui relie l'art, la science et les échanges culturels.
Oui, bien sûr. Bon, alors.
Mais c'est beau quand même.
Ah oui, c'est clair.
Belle histoire.
Bien. Oui, tout à fait. On parle beaucoup des vases de porcelaine Céladon.
Oui, c'est vrai, Didier.
Alors, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît?
Alors, les vases Céladon, il faut être clair, sont très précieux et très chers.
Oui.
Alors, il y en a des faux, beaucoup.
Oui.
On peut un petit peu reproduire la couleur comme ça, mais pas la porcelaine Céladon. Alors, c'est un type de porcelaine caractérisée par son émail vert pâle, qui évoque la couleur du jade, très vénérée en Chine, forcément. Et cette couleur est apparue au IIe siècle, mais le nom Céladon sera donné au XVIIe siècle par les Européens.
Ah oui, c'est nous.
Oui, oui, c'est multiculturel la porcelaine, en référence à un personnage littéraire qui s'appelait Céladon, qui portait des vêtements avec des rubans vert pâle. C'est une histoire d'amour, et donc ce vert et symbole de l'amour fidèle.
Ah.
Voilà. Alors, c'était techniquement difficile d'obtenir cette couleur considérée comme parfaite, qui provient d'une réaction chimique délicate avec la présence d'oxyde de fer dans l'émail.
D'accord.
On est loin de l'oxyde d'étain, l'oxyde de fer dans l'émail, allié à une cuisson en atmosphère pauvre en oxygène.
Eh bien.
Avec un contrôle très précis de la température, très haute bien sûr.
D'accord.
Et la moindre variation en fait, de température ou d'oxygène change la teinte, ce qui rend la production très difficile.
Ouais, c'est très technique.
Très technique.
Okay.
Alors la technique sera justement transmise au 10e siècle, aux potiers coréens qui vont l'améliorer jusqu'à la perfection.
D'accord.
Oui, oui, car ils ne voulaient pas se contenter d'imiter et ils vont développer un style jugé plus poétique et original que ces modèles chinois.
D'accord.
Alors les Coréens utilisaient la technique de l'incrustation qui s'appelle sangam et qui consistait à graver des motifs dans l'argile encore humide et à les remplir avec des pâtes blanches ou noires avant la cuisson, ce qui donnait au final des dessins très fins sous l'émail, par exemple des grues, des nuages, des lotus, des poissons, des paysages pour refléter la nature et la spiritualité. Alors ces vases Céladon, bien sûr, étaient réservés aux élites et aux temples bouddhistes. D'abord.
Okay.
Alors au XIVe siècle, il y aura un déclin du Céladon et une perte du savoir-faire avec l'arrivée du confucianisme qui va préférer les porcelaines blanches toutes simples. Et ce ne sera qu'au XXe siècle qu'il aura sa renaissance, le Céladon.
Okay.
Et aujourd'hui, la tradition est préservée et étudiée en Corée du Sud, notamment à Gangjin, où se tiennent festivals et programmes de recherche. Et le Céladon coréen est aujourd'hui considéré comme un trésor national, un symbole de l'identité artistique coréenne, un chef-d'œuvre de la céramique mondiale et exposé dans les plus grands musées du monde. Voilà, tout sur la porcelaine ou presque. Bon, je vous propose une pause musicale. Alors Didier, c'est pour introduire notre second sujet.
Tout à fait.
Qui est de commémorer les 140 ans de relations diplomatiques officielles de la Corée avec la France.
Et cette amitié durable et rare. Alors j'ai voulu, comme tu l'évoques là, faire un petit clin d'œil.
Oui, tu fais un petit clin d'œil avec une chanson C'est française, chantée,
chantée par un coréen. Oui, vous allez voir, si lui, il n'a pas d'accent, moi, je suis ridicule à côté. Mais là, vraiment, c'est du très grand.
C'est tellement ça, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde tout, à qui le veut, vraiment, c'est tellement rien d'y croire, mais
je ne sais pas si nos auditrices et auditeurs ont reconnu la chanson. Alors, l'envie d'aimer, c'est chanté normalement par un chanteur qui est décédé,
oui,
qui s'appelle Lévy, je crois.
C'est ça, oui. Et pour les 10 commandements, quoi.
Pour la comédie musicale française, les 10 commandements, donc reprise par un chanteur coréen dont nous n'avons pas le nom, on n'arrive pas à le lire. Je suis désolée.
Ah, si. Alors,
oui,
moi,
tu l'as.
Ko Yoon Sung.
Ah, bah voilà.
Je crois que c'est ça.
C'est bien,
j'ai cherché quand même parce que je voulais trouver son nom. Mais
voilà.
J'avoue que si je pouvais parler asiatique autant que lui, il parle français.
Parce qu'il a quasiment pas d'accent. Et c'est très difficile pour les Coréens de parler français, il faut le savoir, parce qu'ils n'ont pas tout. Il y a des sons qu'ils n'ont pas, et notamment des consonnes.
J'ai trouvé que c'était une belle performance.
Donc c'est difficile pour eux de parler français.
Donc du coup.
C'est vrai. Donc il faut lui reconnaître ça.
C'est ça. Pour commencer cette chronique sur l'amitié franco-coréenne, c'était plutôt d'actualité.
Alors ben voilà, raconte-nous Didier, comment se sont instaurées ces relations et transformées parce que
petit à petit, voilà. Alors
avait mal commencé, je crois.
Alors justement, elle remonte au traité signé en 1886 entre la France et le royaume coréen de Joseon. Avec cette relation, elle est particulièrement riche, puis elle avait plutôt mal commencé avec l'arrivée des missionnaires catholiques, dont notre célèbre Saint-Siméon François Berneux de Château-du-Loir, dont tu nous avais déjà parlé il y a quelques temps.
Oui, c'était Noël l'année dernière.
Voilà, le premier évêque de Séoul. Puis, elle s'est poursuivie avec des échanges culturels, avec notre implication dans les conflits historiques, dans une coopération scientifique, des relations économiques et un dialogue stratégique continu, en fait.
Alors oui, raconte-nous un petit peu plus quand même les premiers contacts avec ce pays qui était pourtant très fermé.
Oui.
Parce que 140 ans, c'est vieux comme relation quand même, diplomatique.
C'est beau.
Hein.
Alors les premiers contacts ont eu lieu à partir du XVIIe siècle, avec l'arrivée des premiers missionnaires français.
Oui, donc bien avant 1886,
Oui, tout à fait. Sera le premier contact avec la culture occidentale. Puis, au XIXe siècle, la dynastie Joseon va considérer le christianisme comme une menace pour l'ordre social confucéen. Et en 66, pardon, oui, c'est moi qui dis mal. Plusieurs missionnaires français seront exécutés, dont justement et ça tu l'avais évoqué, ce fameux Siméon François Berneux.
De Château-du-Loir.
Voilà, c'est ça, notre petite gloire locale. En réaction...
Bah, grande gloire locale,
oui,
du
oui,
coup.
Oui, pardon, je ne minimise, je ne devrais pas. En réaction, la France avait lancé une expédition militaire hein, qui échouera, mais qui marquera le début d'un contact politique direct entre les deux pays. C'était une rencontre brutale, hein, mais qui va se transformer 20 ans plus tard, donc en 86, dans un traité d'amitié, de commerce et de navigation avec une présence consulaire. Et ce traité va marquer l'entrée de la Corée dans le système diplomatique international.
Oui, donc ça avait commencé bien avant le traité de 86.
Voilà.
Alors j'imagine que ces relations se sont interrompues avec la colonisation japonaise, Didier, en 1910.
Oui, c'est ça. Ah oui, avec l'annexion de la Corée par le Japon, l'État coréen va disparaître et
oui,
les relations diplomatiques, on l'a évoqué hein, déjà dans d'autres émissions directes avec la France, bah, vont s'interrompre officiellement. Mais officieusement, la France va continuer à accueillir et soutenir des mouvements intellectuels coréens en exil et poursuivre des échanges culturels qui influenceront l'éducation, la littérature, la pensée politique et le droit. Alors, après la Seconde Guerre mondiale et après son indépendance, la péninsule coréenne sera divisée en deux hein, et la France reconnaîtra comme État la Corée du Sud et réaffirmera ses relations diplomatiques. Puis... pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953, la France participera aux forces des Nations Unies pour défendre la Corée du Sud et enverra un bataillon français qui combattra vaillamment à ses côtés. Et cette participation militaire va fortement renforcer les relations bilatérales et créer une mémoire commune, Corinne.
Donc c'est une très vieille amitié. Alors comment se sont confortées les relations depuis les années 60 ?
La période des années 1960-1980 est celle de la modernisation de la Corée du Sud durant laquelle la France a contribué à de nombreux projets pour développer les infrastructures, l'urbanisme, l'industrie et l'éducation. Contrairement aux États-Unis et au Japon qui ont joué un rôle déterminant dans la reconstruction de la Corée après la guerre, la France n'a pas été un acteur central, mais elle a beaucoup aidé. Ce sont surtout les échanges culturels et universitaires qui vont faire que la culture française va attirer et influencer les intellectuels coréens en philosophie pour la création de la cinématographie, l'architecture, la littérature et la gastronomie.
Et quels sont les projets auxquels la France a participé concrètement ?
Alors, le plus emblématique de la coopération franco-coréenne est sans conteste le développement du train à grande vitesse coréen. Le KTX.
Oui.
Et oui. Dans les années 1990, avec le groupe Alstom, qu'on connaît bien, en collaboration avec la SNCF, c'est pourquoi les TGV français et coréens, Corinne, sont les mêmes.
Mais oui, c'est sympa ça.
Oui, on n'est pas dépaysés. Ce projet ne s'était pas limité à une simple vente de matériel. Il a permis à la Corée du Sud de développer par la suite ses propres trains à grande vitesse. Dans le domaine des transports urbains, il y a eu aussi une coopération technique avec la RATP pour l'exploitation, la maintenance et la gestion des réseaux du métro. Sur le plan énergétique maintenant, la France a apporté et apporte toujours à la Corée son expertise dans le nucléaire civil.
Oui, c'est vrai qu'on est quand même un peu spécialisé.
L'entreprise Framatome, anciennement Areva, a coopéré avec Korea Electric Power Corporation pour la fourniture de composants, l'échange de technologies et le développement de compétences dans l'ingénierie nucléaire. Total Energy, lui, Veolia, Suez sont également implantés là-bas. Et tout cela a participé à l'intégration de la Corée dans des réseaux énergétiques internationaux, dans le développement durable. Avec Airbus maintenant et Thales, on collabore aussi dans le secteur de l'aéronautique et celui de la défense.
Important aujourd'hui.
Oui.
Alors notre partenariat avec la Corée du Sud touche des domaines stratégiques et sensibles du coup. C'est sûrement très important pour l'avenir. Mais aujourd'hui, y a-t-il d'autres domaines dans lesquels nous sommes impliqués, Didier ?
Alors oui, il y a dans le domaine de l'éducation aussi, la recherche et dans les arts. Alors, de nombreux partenariats universitaires ont été établis entre des établissements français et de grandes universités coréennes. avec des échanges d'étudiants, des programmes de double diplôme, des projets de recherche conjoints en sciences fondamentales et en technologies avancées. Des organismes comme le CNRS, le CEA, travaillent avec leurs homologues coréens dans des domaines tels que la nanotechnologie, l'intelligence artificielle, la physique des matériaux et les énergies nouvelles. C'est high-tech tout ça.
Oui, oui. Oui.
On peut affirmer que depuis en fait 140 ans, nous avons avec la Corée des relations culturelles et diplomatiques multidimensionnelles et exceptionnelles, malgré l'éloignement géographique. Au fil du temps, nos deux pays ont influencé l'esthétique, la pensée et les pratiques créatives de l'autre. Quand on visite Séoul, on se rend compte de cette influence française dans l'architecture, mais aussi dans beaucoup de petits détails qui nous la rendent familière. Ça, tu pourrais certainement en témoigner, Corinne.
C'est vrai, c'est vrai. C'est à la fois du très dépaysant et il y a plein de choses qui font qu'on se sent bien là-bas.
Bon, bah c'est parfait.
Oui, familier.
D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu en France pour cette commémoration? Parce que c'est quand même important.
Oui, beaucoup de manifestations dans beaucoup de villes de France. Pas le temps de tout citer. Hein. La plus significative, c'est sûrement l'année Corée, au Musée national des arts asiatiques, à Paris, qui va évoquer une grande programmation autour de la culture coréenne. Bon, l'exposition K-Beauty, beauté coréenne, histoire d'un phénomène, du 18 mars au 6 juillet 2026, une installation monumentale d'Al Dari, la lune et les jambes. Alors ça, c'est d'avril 2026 à février 2027, une œuvre contemporaine monumentale sur la façade du musée. Il y a aussi l'exposition Cilia, l'or et le sacré, trésors royaux de Corée. Ça, je pense que ça va être très joli, du 20 mai
très beau.
Au 31 août 2026. Il va falloir qu'on aille
les à très Paris. Belles pièces. Oui.
Oui, j'imagine, les trésors archéologiques du royaume de Cilia. Une première en Europe, hein, donc c'est vraiment
beau cadeau.
Et si aussi le cabinet des illusions, alors ça c'est du 16 septembre, vous avez un peu plus de temps, au 4 janvier 2027, exposition sur les savoirs visuels et artistiques coréens traditionnels. Alors si vous allez cet été à Avignon en juillet, il y aura aussi plusieurs spectacles autour de la langue et de la culture coréenne en mai. Un pavillon coréen au marché du film du Festival de Cannes présentera le cinéma coréen à l'occasion de ce 140e anniversaire. Sans oublier Park Chung-wook, le réalisateur de All Boy et de Mademoiselle et de Aucun autre choix, qui sera lui le président du festival.
Oui, c'est vrai. C'est un hasard peut-être, mais...
Bon, je ne sais pas, peut-être pas. Hein.
Peut-être pas.
Il y aura bien sûr aussi des concerts en particulier, on l'a déjà évoqué, ceux de BTS, et les 17 et 18 juillet au Stade de France. Et au Mans participera au 24h 2026 une nouvelle équipe coréenne avec Genesis, la marque de haut de gamme du groupe Hyundai, en catégorie hypercar. C'est la première fois qu'un constructeur coréen s'inscrit officiellement des voitures au 24h du Mans. Et parmi les 6 pilotes de l'équipe, il y aura 3 pilotes français.
Oui. Bon, Didier, c'est fini. D'accord. Chers auditrices, auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi matin à 9h, le mercredi à 13h, bien sûr en podcast sur Radio Alpa et sur toutes les plateformes.
C'est ça.
Très bonne semaine à vous. Prenez
à vous
soin
aussi.
De vous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.